Merci à tous d'être ici et puis merci à vous, Gilles Clément, d'être avec nous ce soir pour cette rencontre, pour la rencontre qu'il y a eu aussi hier soir à l'UBO qui était organisée avec l'association Espace d'apparence. C'est un véritable marathon brestois, un marathon de la transmission. Parce que encore et encore, l'ingénieur horticole, le paysagiste, le botaniste, l'ancien professeur de l'École nationale du paysage de Versailles, l'entomologiste, l'écrivain, le poète, le voyageur, le penseur du paysage que vous êtes, le tout compilé en un seul mot, c'est-à-dire un jardinier, et ben vous n'avez de cesse de transmettre, de dire ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris de votre passion, qui est le monde du vivant, le vivant. Et pourtant, humblement, vous nous dites que le jardin ne s'enseigne pas, que c'est lui qui nous enseigne. Alors, Gilles Clément, vous avez créé des jardins sur le toit d'une base navale à Saint-Nazaire, en bord de mer Méditerranée, dans le domaine du Rayol. Par chez nous, dans le Finistère, sur une île, l'île de Bas, le jardin de Georges de la Selle, en plein cœur de Paris, avec le parc André Citroën ou les jardins du Quai Branly. Chez vous, dans votre vallée, dans la Creuse, votre région natale, vous avez créé des jardins œuvres d'art, des jardins... Ouh, si ça sonne, non, c'est pas là. Des jardins œuvres d'art. On pense à... Il y a un petit son, c'est là-bas. Bon, on continue avec la musique. Voilà, œuvre d'art et tout de suite la musique arrive. Le jardin Vivienne hein, sur le site Richelieu. Non, c'est quand même énervant. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, je reprends. Donc oui, des jardins œuvres d'art, des jardins d'orties, des jardins sauvages, des jardins en friche, des jardins politiques, des jardins poétiques. Et vous êtes tout aussi fécond en matière littéraire, hein, parce que à chaque concept, ou plutôt constat, comme vous nous l'avez rappelé hier soir, ben vous écrivez un livre. Le manifeste du tiers paysage, le jardin en mouvement, le jardin planétaire, et votre pensée écologiste, humaniste, vous la mettez en termes et vous la mettez en mots aussi, avec l'éloge des vagabonds, l'éloge de la friche, et puis votre roman, Thomas et le voyageur, où vous nous proposez un traité de géographie vagabonde et puis aussi un roman à énigmes. Gilles Clément, à quel moment vous avez compris, en plus du jardinier que vous êtes, que vous étiez aussi un écrivain et un poète ? Ah, on a des soucis.
Ça y est, ça marche. Bon. Ça, j'ai pas du tout compris. Parce que c'est pas moi qui peux décider ça, ni même comprendre. Il se trouve que j'ai eu besoin des mots pour expliquer, surtout aux étudiants, ce que je pensais. Mais la pensée, c'est pas vraiment pour émettre des concepts et des idéologies, c'était juste le résultat de constats, et en particulier le constat d'une pratique qui a donné, le premier livre, c'est ça, le jardin en mouvement. Ce n'est pas du tout autre chose qu'un cours, en fait. Après, je l'ai vraiment écrit avec l'intention que ce soit lu pas seulement par des étudiants. Ce n'est pas uniquement un document de pédagogie, mais ça l'est quand même un peu. Et ça a été décisif le moment où le directeur de l'enseignement à l'époque était venu vers moi en me disant « Oui, c'est pas mal ce que tu fais dans l'école, mais bon, les étudiants, ouais, ils sont contents, mais enfin bon, tu n'es pas assez théorique. » Alors, ça m'a paru très bizarre, parce que je ne désirais pas être théorique, mais en somme, il voulait quelque chose qui peut-être apparaissait comme une recherche. Et moi, ça m'a un peu donné une impulsion pour écrire en me disant, bon, bah, je vais voir, je vais écrire. Et j'ai commencé à faire à partir d'un autre texte qui était celui que je donnais aux étudiants qui s'appelait La friche apprivoisée, avec des programmes de cours comme ça. J'ai fait le livre Le jardin en mouvement. Après, j'ai mis 7 ans. Non pas pour faire le livre, hein. Ça, j'ai mis 1 an, même pas. Non, pour chercher l'éditeur. Ah ben, personne n'en voulait. Ça. J'étais pas écrivain connu. Hein. Et oui, 7 ans. J'ai fini par. C'est ton cas, hein, Hubert, ton cas, qui a bien voulu publier. Il m'a appelé. Bah, il connaissait le texte.
Il a eu bien raison. Alors, dans votre dernier ouvrage, Inventer le jardin de l'Antiquité à nos jours, qui est paru aux éditions du Seuil, vous nous conviez à une promenade au cœur des jardins, à travers les époques, de par le monde, et vous le faites en compagnie de Monique Mosser, qui est historienne de l'art. Pourquoi est-ce que c'est important encore aujourd'hui de revenir sur l'histoire des jardins et revenir sur nos capacités à inventer ?
Je ne sais pas. Il y a plein de trucs que je ne sais pas. Hein. Mais là, il s'agit d'un livre qui a été commandé par la BNF elle-même. Et je ne suis pas l'auteur, on est 4. Et Monique a beaucoup d'importance dans la fabrication de ce livre-là. Elle est vraiment une historienne des jardins. Pourquoi faut-il refaire l'histoire du jardin ? Ça, j'en sais rien, peut-être l'éclairer. Et on m'a demandé d'y participer et je l'ai fait. Mais ça vient à l'issue de la mise en place du jardin de la BNF, de l'ancienne BNF, qui est rue Vivienne, et qui a été, c'était d'ailleurs une commande du 1% artistique. Et moi, comme j'ai un statut d'artiste, je l'expliquais depuis 2003, j'avais la possibilité de faire partie des concurrents, et mon projet a été choisi, qui consistait à se mettre en immersion dans le monde végétal et non pas être sur une cour en gravillon avec trois marronniers massacrés. C'était ça. Hein. Donc, ça changeait un peu. Mais avec ce jardin-là, enfin cette immersion, avec uniquement des plantes à tout niveau, aussi bien herbacées, buissonnantes que des arbres, qui ont servi historiquement à faire du papier. Et c'est ça le principe, mais avec un choix, c'est-à-dire qu'on peut faire du papier avec toutes les plantes, toutes. Il y a d'ailleurs eu un livre de Dominique, Jean-Paul Ruiz et sa femme Dominique, qui est fait, j'ai écrit le texte pour eux, donc c'est pour ça que je connais l'ouvrage, c'est une œuvre d'art, qui est fait avec toutes les plantes du potager. Chaque page est une plante différente. Et c'est très drôle et très joli parce qu'il y a des couleurs différentes. Hein. La page de carotte, je ne vous dis pas. Hein. Couleur carotte, indiscutablement, mais surtout, on ne peut pas écrire dessus. Donc, il y a quand même beaucoup de papier fabriqué avec les plantes hein, sur lesquels on ne peut rien faire. Ce n'est pas la peine. Donc, la liste des espèces qu'on trouve dans le jardin Vivienne, c'est celles qui sont historiquement choisies. Mais après des expériences, comme vraiment un papier de qualité. Et la deuxième sélection, c'est le climat de Paris. Il fallait que ça vive dans ce climat-là. Donc on n'a pas mis toutes les plantes.
Hein. Alors, vous avez écrit, pour moi et pour plein d'autres, des phrases phares. C'est en creusant que le jardinier s'élève, hein, que le principe du vivant, c'est la transformation. Hein. Pour vous, le banal, c'est très beau. Les taupes, elles sont merveilleusement utiles. Et vous renommez les mauvaises herbes les vagabondes. Alors, un jardin, vous dites qu'il a pour fonction d'équilibrer l'homme, que c'est un territoire mental d'espérance, que c'est un espace, l'unique, où le rêve est autorisé, et que c'est un lieu où la nostalgie n'existe pas. Alors, où est-ce qu'on en est, Monsieur Clément, avec l'espérance aujourd'hui ?
Alors, on en est à devoir se mettre au jardin en disant, bon, bah, le reste, on n'écoute pas, à rentrer dans un processus d'absolue désobéissance aux règles de la consommation absolue, qui n'a rien à voir avec une réalité d'urgence de vie aujourd'hui. Donc, on ne fait pas ce qu'on nous demande de faire. Il faut désobéir. Il faut oublier de regarder les pubs ou de les écouter et faire son choix et, si possible, fabriquer soi-même. Un jardin potager, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas bien apprécié par le marché. Parce qu'on produit quelque chose qui ne vous amène pas à acheter, à dépenser. Vous êtes dans un accès à une gratuité. Vous savez que peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a une quinzaine d'années ou un peu plus, peut-être, oui, peut-être une vingtaine, aux États-Unis, ils avaient imaginé légalement d'interdire, par la loi, les potagers privés. Et c'était en train de passer dans l'esprit de ceux qui nourrissaient en Europe, et notamment en France. Puis ça ne s'est pas fait, parce que quand même, là, il ne faut pas exagérer. Mais il y avait eu quand même, déjà, vous vous rappelez peut-être, la loi de 2007, l'interdit, ça s'appelle la loi d'orientation agricole, qui interdisait les PNPP. Vous ne voyez pas ? Les produits naturels peu préoccupants, enfin. Quand même. J'ai rien inventé, hein, là. C'est comme ça que ça s'appelait. Cette loi a un peu disparu parce que c'était insupportable, quoi, comme machin. Mais elle a existé, quoi. Et c'était à cause du purin d'ortie. Vous pouvez renforcer l'immunité de vos végétaux. Et on disait, non, vous n'avez pas le droit parce que c'est dangereux, c'est malsain, c'est n'importe quoi, hein. Donc tout ça est vraiment insupportable. C'est une interdiction d'accès à la gratuité, c'est tout. Donc on en est là et il faut arriver à dire, ben non, ben je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Sans forcément prendre un haut-parleur pour ça, parce que ce n'est pas la peine. Hein. Mais vous pouvez vivre autrement. On est dans l'urgence d'un changement de mode de vie.
D'ailleurs, vous avez créé un jardin en réaction à cette loi.
Oui, j'ai fait un jardin d'ortie. À Mel, pour une biennale d'art contemporain à Mel, c'était très sympathique, mais il se trouve que les orties, elles étaient là sur un champ énorme, parce qu'il y avait des usines autour de production de je ne sais plus trop quoi, mais qui avaient pollué en eutrophisant avec des nitrates. C'était pas trop dangereux, les orties. Et donc, favorisant la venue des orties, qui sont très gourmandes, hein, qui ont besoin de tout ça, c'était facile de faire le jardin, il y était. Il suffisait de tracer les sentiers, faire une plateforme avec le filtre. Alors là, c'était une sculpture métallique pour qu'on montre comment on fait la filtration du purin une fois qu'on l'a obtenu. Ça sent pas très bon, hein. Mais après, on le récupère dans un bidon plutôt en plastique parce que en métal, ça l'abîme. Et puis, on s'en sert en diluant 10 fois. Le peu qu'on utilise, on le dilue et ce liquide-là, on l'utilise pour nourrir les plantes ou asperger, pulvériser. Et ça les renforce, et ça évite les parasites, enfin ça a beaucoup de qualité. Mais vous n'achetez rien, vous le fabriquez vous-même. C'est pas difficile avec de l'ortie, hein, y en a partout. Voilà, interdiction. Bon, ben non, il faut désobéir.
Alors, un jardinier, dites-vous, c'est un entremetteur de rencontres entre espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec un écrivain ? Est-ce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui se fait rencontrer, qui fait rencontrer des mots d'ailleurs, qui crée une langue, des liens, un dialogue ?
Vous voyez la question. Excusez-moi.
Oui, non, mais.
Est-ce que quelqu'un a compris ?
Est-ce que quelqu'un a compris ?
Non.
Bon. Vous essayez de communiquer, là.
J'essaie de communiquer, mais en essayant d'expliquer que, ben oui, c'est quelquefois, on aimerait bien parler d'autres langues, mais on n'a pas toujours les gens qui la parlent en même temps. Alors, voilà. J'ai eu la chance d'apprendre l'indonésien. Voilà, donc je vous parlais indonésien. Parce que dans mes voyages, mes séjours, j'ai eu un choc face à une population heureuse, hein, celle de Bali. Et aujourd'hui, ça a un peu changé, mais c'est quand même un peuple extraordinaire. Et ça m'a tellement intéressé que j'ai appris cette langue. Voilà. Et j'ai perdu beaucoup, hein, parce qu'il faudrait pouvoir parler souvent pour retrouver tout ça.
Combien de langues vous parlez ?
Ah, pas beaucoup, hein. Là, l'espagnol, c'est ma langue première, ou je sais pas, voilà, c'est par choix d'ailleurs, parce que j'étais très énervé par l'idée que tout le monde à mon âge en classe choisissait l'anglais. Alors dis non, moi, je vais choisir autre chose. Donc j'ai pris l'espagnol. Je trouvais que c'était plus chantant. Et il se trouve que beaucoup plus tard, j'ai aussi appris l'anglais, mais en deuxième langue. Mais beaucoup plus tard, j'ai eu à éviter le service militaire, parce que quand même, hein, comment on fait pour pas tuer dans le jardin, d'accord, mais pour pas tuer tout court, même ses voisins. Et je suis devenu un coopérant au Nicaragua dans un lycée agricole. Voilà. Alors là, pendant 2 ans, j'ai enseigné, mais en espagnol.
Et quelle langue vous parlez avec les plantes ?
Avec ?
Les plantes.
Ah, et ben c'est cette langue qui nous manque. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec les étudiants. Cette langue nous manque avec les plantes, avec les animaux aussi. Un peu plus facile avec les animaux qui sont proches de nous, parce qu'on peut avoir des comportements d'échange par le regard, par le toucher, etc. Avec les plantes, il y aurait des possibilités de communiquer, bien sûr. Mais on ne sait pas comment, hein. On ne sait pas trop. On peut quelquefois voir vous toucher une. Alors comment s'appelle celle-là ? Mimosa pudica, merci. Mimosa pudica, et elle fait comme ça. Elle se protège. Et ça se voit, quoi. On a une réaction visible. Il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on a seulement une réaction visible qu'il faut dire il y a que Mimosa pudica avec lequel on peut converser. Non, non, avec toutes les plantes, il y a un échange, mais on ne sait pas lequel exactement.
Mais vous leur parlez à vos plantes.
Moi, je peux, enfin pas forcément, hein, mais les toucher, les caresser, oui.
En tout cas, vous avez une écoute particulière, hein, du monde végétal. Hein.
Ben, c'est le constat de leur comportement, de leur développement, le fait aussi qu'elles arrivent à des endroits imprévus. Il y a beaucoup d'espèces que, dans mon jardin comme ça que j'ai accueillies, mais ce n'est pas moi qui les avais plantées. Hein. Ce que j'appelle le jardinage par soustraction, vous savez, c'est on enlève quelques plantes qui peuvent gêner celles que vous voulez garder, mais dans l'espace que vous considérez comme ça, que vous gérez comme ça, vous n'avez rien mis vous-même. Tout est arrivé par le vent, les oiseaux, les animaux, etc. Et vous faites un choix en ayant reconnu la diversité pour savoir celle que vous enlevez ou pas. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça.
Sur l'écoute, hein, l'écoute que vous avez du monde végétal.
Ah ben, ouais. Dans l'ensemble, moi, j'accepte ce qui arrive. Maintenant, dans nos zones climatiques, si on accepte et qu'on ne fait rien, vous savez que ça aboutit toujours à une forêt. Et ce que je dis, hein, aux étudiants, vous ne faites rien dans ce métier, vous êtes utile à tous. Bon, c'est pas tous les métiers comme ça, ok. Simplement, nous, animaux humains, nous avons du mal à vivre uniquement dans la forêt, à l'ombre. On a besoin de lumière, de vue, de perspective, etc. Et la plus grande diversité, en plus, végétale, elle est dans la strate des plantes héliophiles, c'est-à-dire qu'il y a besoin de lumière. Et c'est majoritairement la strate herbacée, quelquefois bulbeuse, etc. Mais bon, elle est par terre, quoi. Il faut de la lumière. Ça n'empêche pas qu'on ait des arbres, mais on ne peut pas être uniquement dans la forêt. Sous les tropiques, j'annonce, enfin, je ferai autrement. Peut-être que la diversité, elle est beaucoup dans les arbres, beaucoup dans les ligneux. Et là, peut-être que ben, il faudrait se percher, habiter comme des singes en haut. Ce serait pas mal. Bon, façon de vivre.
Alors, vous dites qu'un paysage, c'est subjectif, que c'est ce qui reste après qu'on ait fermé les yeux. C'est ce qui imprime la mémoire et que ça dépend de notre culture, de notre origine, aussi de notre sensibilité. Est-ce que vous, vous appréhendez l'écriture comme un paysage? Est-ce que la page blanche, c'est une forme de paysage?
Non, la page blanche, c'est ce qui nous pose tout. Enfin, c'est une grande interrogation. Là, il y a le vide, mais on veut dire quelque chose. Et on cherche les mots pour dire exactement ce que l'on a envie d'exprimer, que tout le monde comprenne. Donc, il faut que la construction de la phrase soit simple, claire. J'ai beaucoup écourté mes phrases en écrivant. Et que les mots soient très, très précis. Donc, ça, quelquefois, il faut en créer. Bon. Mais c'est tout. Hein. Et c'est en écrivant que l'écriture se déploie. Ça, c'est très difficile d'imaginer qu'on fait un texte, qu'on mémorise et on l'écrit ensuite. Non, c'est en écrivant, enfin pour moi en tout cas. Alors je suis passé du crayon ou du stylo sur papier à l'écran, quoi, ou au clavier. On s'y fait. Non, c'est moins sensuel, c'est moins. Il y a quelque chose de. Je sais pas, enfin, on passe par. Un asservissement au robot, mais ça marche quand même.
Alors, en étudiant le vivant, vous étudiez l'urgence de la vie, de tout ce que le vivant élabore pour se reproduire. Vous dites que le but de la beauté, des parfums, c'est d'attirer les pollinisateurs. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, vos livres, ils relèvent de cette même urgence? Est-ce qu'on pourrait les assimiler à des pollinisateurs pour qui vont reproduire aussi le vivant?
Mais nous sommes des animaux particuliers. Hein. Nous avons besoin du langage, donc d'une singularité venant du cerveau que n'ont pas les autres animaux. Ils n'ont pas besoin de passer par les mots. Ils ont besoin de chants, de musique. C'est leur langage, bien sûr. Nous, nous sommes beaucoup, beaucoup plus compliqués. Et ça vient du fait que nous avons le cerveau trop gros, je vous l'ai déjà dit, je crois. Nous sommes tous des prématurés. Nous sortons tous du ventre de la maman un an avant le moment où il faudrait. Sinon, elle mourrait, le bébé avec. Donc, ça, c'est à cause du cerveau, hein, parce que depuis qu'on est en bipède. Hein, donc, on est dans une situation biologique très particulière. Et ayant développé ce monde virtuel de la parole, on s'y est presque attelé. On ne peut plus s'en passer. Et pour communiquer, il faut les utiliser, ces mots. Et l'écriture est quand même un des meilleurs exercices. Il y a même encore aujourd'hui des librairies partout. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé à la poubelle parce qu'il y aurait eu, je ne sais pas, Internet, des choses encore plus virtuelles. Non, on a besoin des mots dans l'écriture, dans le fait d'écrire, mais aussi de lire, évidemment, et de comprendre par ça. Bon, il y a aussi beaucoup de néologismes qui restent complètement absurdes parce qu'on se dit pourquoi ça a été créé ce mot-là, à quoi il sert, c'est pour des super scientifiques qui sont dans un langage qui se referme sur eux-mêmes pour une petite élite. Ça, c'est agaçant, mais il y en a quand même un vocabulaire énorme à la disposition de tous.
Alors, vous avez vécu votre enfance hein, entre la Creuse et Oran. C'est là que s'est ancré votre goût du voyage, de l'observation. Et vous avez accordé un entretien à Sophie Lullier, qui est éditrice au Seuil, « Je chemine » avec Gilles Clément. Vous dites que dans toute votre vie, vous avez exploré deux pistes, l'émerveillement Et là, en tant qu'entomologiste, vous le faites, vous êtes dans l'étonnement, l'observation des insectes, et puis le faire, parce que évidemment, fabriquer avec ses mains, c'est extrêmement important. Est-ce que, là encore, dans l'écriture, vous explorez ces deux pistes-là ?
Oui, bien sûr. C'est pas seulement d'ailleurs l'écriture, c'est quelquefois le dessin qui va, parce que quand on dessine, on fabrique quelque chose qui pourrait être dit aussi en parole, mais qui résulte d'une sensibilité singulière, et après la transformer en phrase, c'est pas forcément utile. On peut se contenter du dessin. Les dessins disent beaucoup de choses, mais on le fait avec ses mains. Être dans l'usage de son corps, pas seulement les mains, me semble fondamental. Et se servir d'outils intermédiaires comme peut-être l'ordinateur ou des machines, ça peut avoir quelques utilités, on ne peut pas dire le contraire, mais ça n'est pas ça qui nous équilibre. Et j'en ai évoqué aussi, je crois, avec les étudiants hier ou aujourd'hui, la polyactivité dans le cours d'une journée à quelque chose de très, très équilibrant. C'est-à-dire faire quelque chose, bon, en réfléchissant, peut-être seulement en écrivant quelques mots, etc., mais avec ses mains, en cuisinant, en jardinant, en coupant, en taillant un arbre, en taillant un bois, une sculpture, en faisant, je ne sais pas, une peinture, en discutant, enfin bref, en étant dans plusieurs activités qui sont complémentaires et très différentes les unes des autres, on s'équilibre. Sinon, on se spécialise avec des œillères, on ne voit pas les autres choses, et en fait, c'est dangereux, on s'aveugle, on devient aveugle.
Vous écrivez tous les jours ?
Non, je n'écris pas tous les jours, je n'ai pas besoin d'écrire tous les jours, mais non, il me faut quand même pour écrire quelque chose que j'ai en tête et qui demande du silence. Très peu d'activités en plus, parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut que je sois dans un programme de calme sur la base d'un mois, par exemple, qui est toujours difficile à trouver, mais ça peut se trouver, et c'est très, très efficace à ce moment-là. Là, on peut écrire.
Alors, vous l'avez écrit, vous l'avez raconté, c'est une ombellifère, la grande berce du Caucase, qui vous a inspiré ce concept majeur du jardin en mouvement, où vous pensez à un paysage qui n'est jamais figé, où les espèces, les gènes circulent librement, où vous incitez les jardiniers à observer, à s'adapter au chemin qui est pris par la plante, à faire le plus possible avec le génie naturel et le moins possible contre. Peut-être, bon, je pense que ici, peut-être tout le monde connaît votre définition du génie naturel, ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est le génie naturel ? Peut-être on va commencer par ça. Et puis, et ce génie naturel, est-ce qu'il existe aussi dans l'écriture ?
On ne m'a jamais posé cette question.
Moi, je suis contente.
Est-ce que le génie naturel existe dans l'écriture ? Qu'est-ce que c'est redéfinir la nature et ce qui est naturel ? Nous sommes des animaux, hein, donc issus d'un ensemble naturel, et par le mécanisme de l'évolution ayant développé le cerveau dont je parlais tout à l'heure, nous avons besoin des mots. Alors peut-être que l'écriture est issue d'un mécanisme de l'évolution naturelle du cerveau. Mais je ne peux pas en dire plus, là. C'est des hypothèses, tout ça. Donc, je n'ai pas de définition non plus pour le génie naturel, mais je dis simplement que ça, il existe chez tous les êtres vivants, et que pour arriver à le saisir, le comprendre, il faut faire un effort de modestie et abandonner l'idée de la maîtrise. C'est dangereux, la maîtrise.
Le génie naturel vient quand on abandonne la maîtrise ?
Oui, bien sûr. Enfin, il vient pas quand on l'abandonne. On comprend à peu près l'autre quand on abandonne l'idée qu'on est le maître, qu'on tient tout, quoi. l'illusion de la maîtrise est quelque chose de dangereux, mais qui nous continue à diriger le monde entier aujourd'hui avec la technologie. On évoquait IA tout à l'heure avec des étudiants. Bon, ben voilà. Et ça continue. Mais non, on n'est pas les maîtres.
Qu'est-ce que c'est un jardinier ?
Un jardinier, c'est un artiste et un savant. Un vrai jardinier, je veux dire. Hein, oui. Parce que sinon, ceux qui arrivent avec une souffleuse, un machin, qui font du bruit, qui repartent en courant, ça s'appelle un technicien de surface. Pas un jardinier, une jardinière. Mais un jardinier peut mettre un nom sur les plantes et dire, bah, tiens, je garde ou j'enlève celle-là parce que je sais ce que c'est. Donc là, c'est forcément déjà un savant. Et un artiste... Alors, je mets ça au masculin parce que le mot jardinier est difficile. Quand on dit une jardinière, on pense à autre chose. C'est dommage, hein. Faudrait changer de langage. Mais ce que je dis est valable pour les hommes et les femmes, évidemment. Et la dimension artistique, elle vient dans le fait d'une appréhension sensible de l'espace et d'une décision d'intervenir sur cet espace dans le but de ce que j'appelle une résolution esthétique. On a besoin à la fois d'une beauté esthétique, mais aussi d'une limpidité, d'une compréhension, d'une acceptation également, partagée par d'autres, du jardin tel qu'il est. Donc il faut quelquefois intervenir pour ça. Pas toujours, hein, mais le jardinier, en général, il a cette mission, avec la mission savante du choix des espèces qu'on garde ou qu'on enlève.
Oui, et puis vous dites qu'il est aussi devenu garant des espèces, responsable du vivant, et que ça, ce n'était pas prévu.
Ben non, mais ce n'est pas toujours pratiqué par ceux qu'on appelle, qui interviennent dans les entretiens des parcs, des espaces publics et autres. Ça a changé un peu, ça a quand même évolué, heureusement. Mais normalement, oui, ça devrait être des garants d'une certaine diversité. Quoique, si on ne fait rien, on disait on fait une forêt, on est utile à tous. Et il y a plein d'espèces qui visuellement disparaissent, mais visuellement, en réalité, elles existent toujours avec par les graines. Vous avez une lumière qui se fait un trou parce qu'il y a une tempête, vous en avez connu ici, dans la forêt, un bois. Bon, ben, la lumière apparaît dans la forêt où elle n'était pas là depuis très très longtemps, et tout à coup, vous avez plein de plantes qui poussent, que vous n'aviez pas prévu. Là, dans un sol acide, ici, ce serait des digitales pour commencer, ou d'autres, et ainsi de suite. Donc, elles sont là en dormance. On peut dire, on ne fait rien et on maintient la diversité. Donc, on n'est pas obligé toujours de jardiner.
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez encore avec vous une graine dans votre poche ?
Non, ça, j'en ai sûrement accroché sans le vouloir aux semelles, ou je ne sais pas, mais... J'en ai pas. J'en ai transporté, oui, bien sûr, mais j'en ai pas en ce moment.
Alors, dans Inventer le jardin, vous avez un paragraphe que vous intitulez « Comment le nom vient aux plantes ?» Et vous nous dites à quel point l'imaginaire et la poésie ont influencé la dénomination des plantes et que parfois le nom scientifique se détourne de ces anecdotes. Alors, il paraît que l'on ne respecte que ce que l'on sait nommer. Et pourquoi est-ce que c'est si important de connaître le nom des plantes, des fleurs ?
Ce qui a un nom est reconnu. Quand il n'y a pas de nom, ça n'existe pas. Et ça, c'est dans tous les domaines, on peut dire. Donc, c'est quelque chose de très important. Quand j'avais travaillé pour la ville de Grenoble, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient déjà, depuis quelques années, commencé à abandonner les pesticides, les herbicides, etc. Il y avait des plantes, disons, sauvages, libres, qui poussaient entre les pavés. Et il m'avait dit, ouais, les habitants se plaignent. Et il dit, ça ne fait pas propre, les mauvaises herbes, les machins. J'ai dit, mais non, c'est pas compliqué, il suffit de leur expliquer. Et j'avais fait la proposition à ce moment-là de faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville. Gratuite, en fin de semaine, ouverte à tout le monde, pour expliquer. justement parce que en expliquant, en mettant le nom des plantes, disant ça existe, c'est comme ça, ça joue un rôle dans l'écosystème en rapport avec d'autres plantes, mais avec aussi des insectes, des oiseaux et ainsi de suite, là, tout à coup, il y a une compréhension et une acceptation. Alors, bon, ils ont dit oui, ça, c'est une bonne idée, puis ils n'ont pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait parce que les jardiniers eux-mêmes de la ville de Grenoble ont joué très rapidement le rôle de médiateur. Ils avaient la possibilité de communiquer avec les habitants, ils ont eu même l'ordre de le faire. Et finalement, au bout d'un moment, en expliquant, ben non, voilà pourquoi on garde ça, voilà comment ça s'appelle, à quoi ça sert, et ainsi de suite, terminé. Les habitants ne se sont plus du tout plaints. Je leur dois beaucoup hein, à ces jardiniers-là, parce que en parlant de cette histoire-là, quelques années plus tard, c'était dans l'Essonne, à je ne sais plus quel endroit, le maire de l'époque me dit « Ah, c'est une bonne idée, ah, je vais le faire. » Et il a voulu faire cette école pour les mêmes problèmes dans sa commune, et il l'a baptisée « École du jardin planétaire ». Bon, il exagérait un peu, mais ça a été la première. Viry-Châtillon, je lui dois beaucoup.
Alors, vous dites aussi que l'écologie, c'est un choc, qu'elle oblige à tout réinventer, qu'elle bouleverse tout, qu'elle atteint les croyances, les mythes, les positions face à la nature, que c'est une science qui est mal aimée, mal comprise, mal transmise, culpabilisante, et que l'écologie, en fait, c'est une pensée révolutionnaire et qui suffit à elle seule pour construire un projet politique. Alors, comment s'y prendre et quel est le rôle de l'artiste?
Alors, l'écologie n'a pas été créée pour faire de la révolution, mais sans le vouloir, elle fait la révolution. Parce qu'elle s'oppose d'une manière logique, mécanique, à quelque chose qui a été mis en place à peu près vers le milieu du 19e siècle, qui est la loi du fric. C'est l'industrie, par l'industrialisation, évidemment, le rendement, la névrose de la performance et le fric et tout. Il n'y a que ça et il n'y a aucun projet politique. Quand tout à coup arrive un autre mode par l'écologie de gestion, où on dit pour continuer à pouvoir vivre sans se suicider riche, hein, il faudrait qu'on protège ça, ça et ça. Et à ce moment-là, ben, on n'est plus du tout dans la névrose du rendement et de l'argent. On est dans une autre façon de vivre, c'est tout. Et on peut très bien le faire. On a la démonstration du fait qu'on n'a pas besoin d'être fortuné avec 4 SUV, un jet privé ou 2 et je ne sais pas trop quoi pour vivre sur la planète. Pas du tout. On a besoin de pouvoir manger des choses mangeables, respirer de l'air respirable, boire de l'eau buvable et trouver surtout des amis, des gens avec qui communiquer et voilà, être heureux, en équilibre. On rentre dans un autre modèle, un autre, et là, ça c'est détesté. Détester tous les lobbies, que ce soit de l'agro-industrie ou de l'industrie tout court, sont opposés à tout ça, puisqu'on ne va pas aller consommer, on ne va pas aller acheter un tracteur qui est avec des roues hautes comme ça pour faire des kilomètres là, et fait empoisonner la planète. Non, on ne va pas faire ça, on ne va pas s'endetter au seul profit de ceux qui fabriquent ces objets. Et là, on est détesté. Et ça devient politique sans qu'on le veuille. Hein. Moi, je ne suis pas du tout politique à l'origine. Hein. C'est pas de ma faute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ben, grâce à vous, à d'autres, on pense aussi à Francis Allais, hein, vous nous avez bien fait comprendre, mesurer ben, à quel point on est tributaire hein, de cette oui. diversité, à quel point on est au cœur de ce monde. Hein. Et d'ailleurs, vous dites bien, le mot d'environnement, vous ne l'utilisez pas, en fait. Hein. Vous dites que c'est de l'espéranto technique. Hein.
Oui. Environnement, c'est vraiment pervers. Ça veut dire on met le truc là dont on veut pas s'occuper aux environs loin. Ben non, on est en plein dedans. C'est le vivant, c'est tout. Non, l'environnement. Quand Bernard Latarget, qui avait lu Thomas le Voyageur, ça c'est un livre de base pour moi dans mon histoire personnelle, il me dit, c'était en 98, est-ce que vous pourriez faire un synopsis à partir de ce vos idées dans ce livre, etc., pour une exposition qu'on voudrait mettre en place en 99-2000, à la Villette, hein, et sur le développement durable. Non, non. Le développement dans un espace fini, la planète, bon, la vie, on sait où elle est limitée, hein, c'est les limites de la biosphère. Comment on fait? Non, et durable, rien n'est durable. Tout se transforme en permanence. Donc j'ai dit non, mais j'ai fait la proposition du jardin planétaire. Et Bernard Targé a accepté. Enfin, je lui ai expliqué pourquoi j'avais choisi ça. Et ça m'a beaucoup surpris, mais aussi mis au travail. Là, j'ai dû imaginer et fabriquer le synopsis en question et mettre au point l'expo. Et elle a eu lieu et elle a eu quand même un écho, quoi. C'est pas tombé à la poubelle.
C'était en 99. Hein,
oui, 99, jusqu'en février 2000.
Et elle a tourné cette exposition?
Alors, elle n'a pas pu tourner parce qu'elle était trop importante, mais le thème de jardin planétaire avec des expositions beaucoup plus modestes a tourné et circulé dans différents pays. On me redemande encore.
Et bon, et aussi encore avec d'autres, hein, depuis toutes ces années, vous nous mettez en alerte, hein, sur cette fragilité du monde végétal, sur notre dépendance au monde animal, hein, et vous en parlez de la, très bien, enfin voilà, de la part de l'homme dans cet équilibre. Bon, vous avez en partie répondu, mais bon, encore, peut-être, qu'est-ce qui fait encore, d'après vous, qu'on n'ait pas pris la mesure, la conscience de cette connexion, interconnexion au reste du vivant?
Parce qu'on est dans des modèles de convoitise qu'il faudrait modifier, qui sont sur le luxe, je sais pas, j'ai évoqué tout à l'heure les outils dont on n'a pas besoin de se servir, et on vous dit c'est ça qu'il vous faut, c'est ça que vous devez acheter, c'est ça que vous devez consommer, voilà, et on croit que c'est ça qu'il faut faire pour être heureux, alors que ce n'est pas du tout. On peut tout à fait changer de modèle de convoitise et dire non, je voudrais bien avoir du calme, par exemple, pas trop de bruit dans la rue, des choses de ce genre. Bon, voilà, c'est chacun de décider qu'est-ce qui lui convient.
Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, de raconter des histoires, c'est tout aussi important que de faire des jardins?
Je crois que l'un va avec l'autre, parce qu'on peut raconter des histoires qui se perdent, que ce ne sont que des mots, quand en plus on a le substrat, la réalisation, quelque chose de concret. L'un s'appuie sur l'autre et c'est pas mal d'avoir les deux. On peut montrer.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Gilles Clément, hein? Sinon, j'en ai d'autres. Hein.
Une ou deux.
Alors, allez-y.
C'était en réaction. Je ne sais pas si vous entendez. C'était en réaction à la réflexion autour de cette dualité qui est induite par le fait de séparer les choses et de chercher du luxe, etc. Je me suis demandé si une des difficultés qu'on avait pour ne pas se rendre compte de l'interconnectivité du vivant, c'est parce qu'on cherche dans le mental pour trouver la solution. Et le mental, c'est celui qui sépare.
Très, très bien. Non, mais je suis d'accord, là. Et le mental cloisonne, fait des titres, des catégories, alors que tout est lié. On est dans un écosystème en permanence. On s'en rend biologique. On ne s'en rend pas compte, on ne nous l'apprend pas comme ça. Mais quand on élimine une plante du jardin, en fait, on intervient sur l'écosystème, sur la totalité du jardin, dans son équilibre. C'est-à-dire qu'il y a les insectes, des micro-organismes, des systèmes racinaires qui sont là et qui vont réagir autrement. Mais on ne sait pas, on ne nous l'apprend pas non plus. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et donner un pouvoir énorme au mental vient de ce cerveau trop gros dont je parlais. Alors le titre du livre qui peut-être paraîtra l'année prochaine si j'arrive à le finir, ça s'appelle « La raison tue ». Bon.
J'ai bien senti que vous qui interviewez, vous êtes très en lien avec la librairie, puisque la librairie, les livres, c'est l'endroit de transmission. Mais on coupe la transmission en le limitant aux mots. Et donc, quand on transmet seulement par les livres, c'est extrêmement important parce que ce qui est perdu, qui n'est pas transmis par les livres, est aussi perdu. Mais il n'y a pas que ça comme transmission.
Je pense que
bien
oui.
D'accord.
On est d'accord aussi. Vous aviez donc. Oui.
Pourquoi pas. Bonsoir. Je serais curieuse de savoir si vous avez une plante préférée. Est-ce que vous avez une plante avec laquelle vous avez une relation particulière? Et si oui, est-ce que vous accepteriez de nous raconter cette petite histoire? J'aime beaucoup les histoires.
Non, je suis désolé, c'est vraiment une question qui m'a déjà été posée. Et chaque fois que je me pose moi-même cette question, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Du tout. Je ne sais pas comment m'y prendre. Hein, pour dire, ben non, c'est cette plante-là, je la préfère, elle est. Et je voudrais vivre avec. Il y en a tellement.
Il y en a une avec laquelle vous avez vécu une aventure
particulière. Une avec laquelle j'aurais vécu une aventure particulière, je cherche.
Tellement d'aventures.
Peut-être le cannabis. Ben ça a été une expérience une fois dans ma vie. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Mais ça m'a étonné parce que je me suis retrouvé avec une exacerbation des sens, une ouïe, alors pour le coup, en hyperacousie totale, mais tout, le sens de la vue, le toucher, enfin bon, c'était exagéré. C'était le LSD, hein. C'est peut-être pas la même chose. Ah oui, d'accord. Ah non, je me suis trompé. Bon. Ben alors, c'est pas une plante, ça.
Ouais.
Non, mais ça vient peut-être des plantes. Hein. Bon, enfin, c'est pour vous dire que finalement, je me suis dit, oui, c'est assez intéressant. Ça exacerbe nos sens. Mais si ce produit-là, il vient révéler quelque chose dans notre corps, dans notre sensibilité, ça veut dire qu'on peut y avoir accès sans aller se shooter, hein. Ce n'est pas une nécessité. Mais j'ai quand même vécu l'expérience de façon intéressante. Voilà. Bon. Alors ça, qu'est-ce que j'ai... L'ortie, ça je vous ai dit. Alors la grande berce du Caucase, là elle m'a brûlé de tous les bras, bien fort. C'est une expérience, oui, mais je ne suis pas allé la chercher dans le Caucase. Hein. Elle est arrivée chez moi le long de la Théole, qui est une petite rivière qui passe à Issoudun, Châteauroux. Hein. Là, il y a des rives vraiment couvertes de grandes berces. Et la première fois que je l'ai vue, ce n'est pas là, c'était dans un magasin d'Aiguzon, là, à 6 km de chez moi. La femme qui s'occupait de ce magasin me dit, venez voir. Et elle me montrait la grande berce. Après, elle m'a expliqué qu'elle diluait son urine dans de l'eau pour arroser la grande berce. Et qu'elle était, c'est à cause de ça qu'elle était gigantesque. On ne sait pas à cause de ça, elle n'avait pas besoin de... Mais elle était fantastique. Et c'est elle qui m'a donné les graines que j'ai semées chez moi. Donc, je ne suis pas allé chercher dans le Caucase. Hein. Je suis allé chercher à Aiguzon, dans 6 km... Voilà. Elle était déjà arrivée en Europe, hein, depuis longtemps, par l'Angleterre au début, puis par, je ne sais plus comment il s'appelait, à Genève, un botaniste. Et finalement, ça s'est développé un peu partout. Voilà. Elle est très sympa. Elle est magnifique.
Et d'ailleurs, ben vous dites hein, que le mot jardin, ça vient de l'allemand, de Garten. Hein. Que c'est là où on préserve le meilleur, que c'est un enclos, un paradis. Et vous avez fait évoluer la notion de meilleur, hein, puisque, et là on pourrait parler de ce jardin par exemple de Georges de la Celle à l'île de Bas que vous avez ouvert sur la lande fleurie et dans lequel vous avez introduit toutes les plantes endogènes. Et en fait, vous avez starifié des plantes modestes, les petites plantes pour lesquelles on n'avait pas forcément d'attention. Est-ce que pour vous, justement, toutes les plantes, toutes les herbes ont la même importance?
Oui, elles ont toutes de l'importance, mais là, je ne sais pas ce qu'on raconte sur Georges de la Celle et mon intervention. Je n'ai pas fait grand-chose. Hein.
Quand même.
Maintenant, il existait, le jardin.
Oui, mais vous l'avez ouvert.
Il y a eu une extension de sa surface au moment où ça a été racheté par le conservatoire du littoral et où la gestion a dû être différente et tout. Mais bon, oui, j'ai fait des propositions, effectivement, mais enfin, ça n'est pas allé au-delà.
Et vous avez
quoi.
Introduit des plantes endogènes.
Oui. Oui,
au milieu des plantes exotiques.
Elles se multipliaient, elles étaient déjà là. Non, c'était pas... Alors, j'ai aussi deux rectifications à faire.
Très bien.
Ah ben non, c'était celle-là, Batz. Voilà, l'île de Batz. Et puis Saint-Nazaire, juste pour dire que, effectivement, je suis l'auteur, là, mais on travaillait avec Coloco, une agence avec laquelle je travaille beaucoup, mais il va disparaître. C'est une architecture militaire qui a été faite, vous savez pourquoi, par les Allemands pendant la guerre. Et il y en a d'autres hein, en France. Et là, on prétend que les ouvriers étaient des prisonniers qui étaient dans la résistance et qui avaient fait un béton maigre pour que ça s'effondre un jour. Puis ça ne s'est jamais effondré. Et par contre, ça laisse passer l'eau. Bon, ça a toujours été comme ça. Il y avait des gouttes d'eau qui tombent sur un sous-marin parce que c'est fait pour protéger les sous-marins. C'est pas très grave. Hein. Mais comme ils ont fait des salles maintenant accessibles au public en dessous, ils veulent tout étancher. Pour tout étancher, il faut détruire le jardin, l'enlever, faire l'étanchéité et voilà. C'est l'évolution. Bon, c'est pas grave, hein.
Oui, je voulais savoir si vous n'avez jamais cédé au début de votre vie de jardinier à l'attrait de, comme on a beaucoup été, l'attrait des plantes exotiques qui avait commencé au 19e siècle et qui petit à petit est en train de se réfréner parce qu'on se rend compte que quand on a des plantes exotiques et qu'elles n'arrivent pas sous forme de graines, mais sous forme de plantes. On amène des maladies. Et moi, je sais qu'au départ, j'étais très... Ben, le jardin de Roscoff, les protées, les machins comme ça, j'étais vraiment très, très attirée. Et petit à petit, je me disais que si je refaisais un jardin, bon, je ne vais pas tout refaire à mon âge, mais je referais, justement, mais je n'avais pas entendu votre discours, mais j'aurais refait avec des plantes de la région, des plantes du coin.
Je pense que ce qui est logique, c'est de le faire avec des plantes qui sont contentes de vivre là. Elles peuvent venir d'ailleurs. Et le climat change en plus. Mais celles qu'on veut mettre par désir, parce que c'est fascinant, mais qu'il faut assister en permanence, amener la terre qui lui convient, comme les rhododendrons en Île-de-France où tout est calcaire, il n'y a pas de séracides et ça ne leur convient pas du tout. J'ai connu ça parce que j'ai eu des clients privés au départ. Hein. Ou des plantes qui ont besoin d'eau alors qu'on est en... etc. Enfin bref, ça ne va pas. Mais si elles viennent d'ailleurs et qu'elles peuvent vivre là, oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas du tout contre les plantes qui arrivent, au contraire. Si elles s'installent toutes seules, ça veut dire qu'elles sont contentes de vivre. Et on n'aura pas besoin de dépenser une énergie contraire pour les maintenir en vie.
Quand je suis allée à Madère il y a 2 ans, on est en train de... Il y a eu beaucoup d'arrivées au 19e siècle de plantes qu'on appelle de Madère maintenant, mais qui n'étaient pas à Madère au départ. Et maintenant, on est en train de réhabiliter des collines entières avec des plantes dites dites d'origine.
Oui, oui, le géranium de Madère avait disparu de Madère, ou je ne sais plus quoi, j'ai oublié. Oui, oui, oui. C'est, ben, pourquoi pas, on peut en remettre des plantes qui, effectivement, sont contentes de vivre là, qui avaient disparu, parce qu'elles étaient en concurrence avec d'autres qui sont arrivées. Mais les équilibres entre des plantes qui sont là depuis longtemps et celles qui arrivent ne cessent de changer. Il n'y a pas besoin des humains. Les humains accélèrent ça, ce mécanisme-là. Mais il a toujours existé. Toujours. Parce que les climats ont changé, parce que les animaux eux-mêmes transportant... Enfin bref, tout a... Enfin, vous connaissez, je ne vais pas recommencer, ça fait je ne sais pas combien de fois que je le raconte, mais l'histoire des chênes qu'on n'avait pas, qui sont les chênes, les quercus, on n'avait pas chez nous. Il y a 10 000 ans. Vous savez, 10 000 ans, c'est quoi dans l'histoire de la planète hein? C'est une petite quart de milliers de secondes, là. Ils n'étaient pas là. Puis tout à coup, on les sanctifie, on dit oui, les druides, les machins, les choses. Non, non. Et on va faire ça avec d'autres espèces en disant oui, elles sont... On a même fixé des dates. Je ne sais plus si c'est 1700, 1500, mais je ne sais pas quoi. En disant ce qui est arrivé, ce qui était là avant, elles sont de chez nous, paraît-il. Et celles qui sont arrivées après, elles ne sont pas de chez nous. C'est n'importe quoi. C'est fait par des gens qui ont des visions fixistes dangereuses, qui n'ont pas du tout compris ce qu'était la vie. Enfin, c'est inquiétant, hein, ça. Parce que quelquefois même, parmi eux, ils se déclarent écologistes. Il y a donc des écologistes qui ont compris ce qu'était l'écologie et d'autres pas. Voilà.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ?
C'est une question pratico-pratique. Donc... À Brest, il y a un petit jardin sur un rond-point. Vous l'avez vu hier, le rond de jardin que les habitants du quartier ont voulu créer parce que c'était un rond-point délaissé par le service des espaces verts. Et donc, on voulait améliorer notre environnement. Et donc, on voulait mettre des fleurs. Donc, on a fait le pas de côté, cher à GB. On arrête tout, on réfléchit. Et ce n'est pas triste. Et donc, nous sommes passés à l'action. Nous avons planté quelques fleurs. 3 jours après, il n'y avait plus rien. Tout était à la benne. Ça a ouvert des négociations avec les services de la ville. Parce qu'on n'avait pas demandé d'autorisation, bien sûr. 6 mois après, on a eu la permission de faire nos preuves. Et on a eu droit à cultiver la moitié de ce rond-point. Et voilà, ça a été un succès et le jardin a aujourd'hui 17 ans. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous, au début de votre carrière, vous avez dû défendre vos projets qui étaient atypiques ? Est-ce que c'était facile ?
Non. C'était pas facile. Parce que j'avais, comme je vous disais, uniquement des clients privés et qu'il était, ça a duré 5-6 ans, hein, j'ai pété les plombs, au bout d'un moment j'ai arrêté, quand j'ai eu d'ailleurs accès justement à la commande publique, mais pour laquelle j'avais été finalement enseigné. C'était ça, quand on est ingénieur horticole et paysagiste des PLG, on a accès à tous les concours, on peut les faire, public, espace public, etc. Mais je ne le faisais pas. Parce que j'avais déjà eu une connaissance avec des particuliers en tant qu'étudiant. Et ensuite, quand je suis revenu et que j'ai commencé à travailler. Mais je ne pouvais pas les prendre pour cobayes. En leur disant, écoutez, voilà, on va changer le mode de gestion. On va... Tout ça issu de ma propre connaissance d'un mode de gestion différent qui avait abouti au jardin en mouvement déjà. Ce n'était pas possible. Et c'est, le livre n'était pas sorti encore, mais j'ai eu accès après à Parc André Citroën, qui était le premier espace public dans lequel un jardin en mouvement a été expérimenté. J'imaginais pas d'ailleurs qu'il durerait, il est toujours là, il n'est pas en très bon état, mais il est toujours là. Oui, il y a des choses à modifier dans cet espace-là. Mais il existe, alors que quand il a été, le jardin a été exécuté et inauguré en 1992, tout le monde pensait qu'on allait l'enlever, cet espace dédié au jardin en mouvement, et que ça deviendrait une prairie tondue. Ben non, parce que finalement, il y a eu une acceptation des habitants qui ont dit oui, c'est intéressant, ça rappelle, et ça me rappelle ma jeunesse. Beaucoup disaient ça, ce qui était très chaleureux, et finalement, c'est resté. Bon, après, il y aurait du travail à faire, mais bon. Parce que c'est quand même un jardin, même s'il est laissé avec beaucoup de liberté. Donc j'ai eu cette chance d'avoir deux choses, l'espace public et le livre en même temps, qui a été publié. Donc après, finalement, d'autres exemples, comme les expérimentations dans le parc, le jardin du lycée agricole de Jules Rieffel, avec trois enseignants, d'autres lieux... l'ENS Lyon, enfin bref, là, il y avait des démonstrations très positives de ce mode de gestion différent. Mais ça s'est passé dans l'espace public.
Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être ? Ah, non ?
Moi, je voudrais savoir si vous avez des suiveurs dans votre, qui reprennent le flambeau des jeunes de
l'ENS. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a le collectif Coloco dont je vous parlais tout à l'heure, avec lequel je travaille depuis 2003. Ils sont dans l'ancien espace de l'agence que j'avais sous le nom de Acanthe. Et tous les gens de Coloco sont dans cet esprit. Bon, il n'y a pas qu'eux aujourd'hui, mais on est vraiment en collaboration. Mais aussi, eux, ils vont à droite, à gauche, ils font des petits, hein. Oui, ça s'est développé.
Comment vous voyez le réchauffement climatique ?
Je le vois comme un phénomène assez violent, qui a l'avantage, par sa violence, de réveiller les esprits endormis ou les climato-sceptiques. Il y en a quand même beaucoup qui disent oh, ouais, et puis bah non. Il y en a qui continuent, hein, à ne pas vouloir ouvrir les yeux. Mais il faut que nous nous acheminions vers une adaptation, une transformation, une adaptation à des changements qui vont être de plus en plus difficiles, et que dans le même temps, nous soyons en train de mettre au point un mode de vie qui n'accélère pas ce changement. Donc on est obligé de changer de mode de vie. Et c'est ça la chose la plus difficile, parce que ça suppose un changement de vision du monde, donc culturel, et un changement technique, mécanique, d'utilisation de l'espace. C'est pas facile, mais c'est obligé. Et pour le jardin, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a des plantes qui vont être capables de vivre dans les espaces où on est, où il y a eu le changement, et d'autres qui vont partir, disparaître. Voilà.
Alors, dernière question.
Bonsoir. Nous avons une superbe friche à l'entrée du port de commerce sous les falaises du lycée Fénelon. Des superbes falaises que j'appelle falaises fossiles, car au départ, c'était des falaises marines. L'eau de mer arrivait au ras de ces falaises, au niveau du casino de Kermor. C'est une question patrimoniale. Alors, cet espace est ponctué aujourd'hui d'herbe de la Pampa. Alors, ma question étant, est-ce que ce lieu vous inspirerait pour faire un jardin Gilles Clément à Brest, ville d'art et d'histoire ? Et à ce titre-là, j'aurais aimé être étudiant cet après-midi ou dans la journée d'aujourd'hui, qui a été sûrement une journée très riche entre vous et les étudiants. J'aurais aimé être étudiant pour savoir ce que vous avez transmis à cette jeunesse positive, bouillonnante de projets. Et je reviens à mes falaises sous le lycée Fénelon. C'est sérieux.
Alors, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je ne les connais pas. Mais il faudrait que j'aille voir. Je n'ai pas le temps. Demain matin, je pars assez tôt. Mais voilà. Je vais revenir. Effectivement.
Bon, eh ben, merci beaucoup. En effet, vous êtes le bienvenu à Brest et on espère bientôt un jardin Gilles Clément à Brest. Ça serait merveilleux. Merci beaucoup. Et donc,
Mais voilà, on aura un seul.